Brisons la glace.
Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le mercredi 6 mars et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Autour de la table, eh bien, nous avons Stan à ma droite. Bonsoir Stan.
Bonsoir à tous et à toutes.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Alors moi, je vais vous parler du droit de vote des femmes en Norvège.
Et oui, parce qu'on se rapproche de la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, et on s'est dit qu'à la rédaction, on allait faire une émission centrée sur les femmes ce soir. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Anaïs, dans ce sujet ?
Alors moi, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc des startups, et donc des startups norvégiennes fondées par des femmes. Et j'ai choisi des projets un peu cool.
Génial, on a très très hâte de découvrir avec toi ces startups. Et enfin, notre spécialiste histoire, encore à la technique, deuxième fois.
Oui, on s'en lasse pas. Non, mais ça va.
De quoi tu vas nous parler ce soir, Valentin ?
Ben moi, du coup, ça sera aussi en lien avec la thématique du jour. Ça sera l'histoire du féminisme en Norvège. On va pouvoir faire quelques mentions de noms pour encore briller en société.
Quant à moi, je vous ai préparé un quiz parce que je sais que les auditeurs, ça leur manque. Un grand quiz, donc je voulais laisser en deuxième partie de l'émission, ça va être sympa. Mais pour ouvrir l'émission, c'était l'actualité de ce début de semaine. Le 4 mars, le Parlement a approuvé le projet de loi permettant d'inscrire définitivement l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Évidemment, il faut que le président de la République signe cette loi. Et ça devrait être scellé le 8 mars 2024. On est quand même super contente. Ça fait un petit peu cocorico, Anaïs, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah oui, bien sûr, oui.
C'est vrai que en pleine histoire ou aux States, c'est presque l'inverse, mais peut-être pas presque, c'est l'inverse
c'est
qui se passe.
L'inverse, ouais.
Avec des femmes qui sont toujours en danger pour avorter. C'est vrai que ça fait une petite bouffée d'air dans une actualité un peu morose pour les femmes dans le monde.
On voit des sociétés qui régressent et des sociétés qui progressent vraiment.
Et puis ça a été un projet porté pendant quelques années, hein. Ça ne s'est pas fait d'un coup pour que le Parlement vote cette loi, donc on est super contente. Et peut-être que vous êtes contents aussi. Est-ce que ça, en tant qu'homme, quel est votre rapport à ce sujet ?
C'est toujours bien quand il y a des personnes qui se sentent mieux dans une société, je pense, tout le monde y gagne. Et après, non, bah, je pense que c'était important de sceller ce droit-là dans la Constitution. On voit que ça peut être facilement remis en question, que ça peut... L'histoire peut montrer que ça peut vite changer. Oui, enfin, je vois ça comme un progrès. Après, il y a toujours la crainte derrière, c'est qu'en fait, faut pas qu'on soit ébloui par ça. Parce que derrière le droit à l'IVG, il y a d'autres sous-droits, en fait. Il y a quel délai d'IVG, puis sous quelle contrainte. Selon les pays, ça varie.
Exactement.
Suivre, ouais. Donc,
exactement, la Pologne qui était un peu dans le conservatisme pendant quelques années, qui avait... Alors, je sais pas où ça en est maintenant, mais c'était vraiment que en cas de viol et d'inceste. Et je crois que la loi est encore un peu ferme.
Puis la gratuité, elle peut arriver. Il y a aussi le droit de... Le consentement, enfin, le droit de réserve des médecins. Qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin, voilà. Il y a toujours ces petits obstacles-là qui...
C'est historique, hein. Là, on va être le premier pays européen, je pense, à l'avoir...
Du monde, il me semble.
Du monde, ouais. L'avoir inscrit dans la Constitution. Donc, forcément, c'est une bonne avancée. Mais comme disait Valentin, il ne faut pas s'asseoir là-dessus, quoi.
Ouais, et alors, en fait, c'est en plein dans le plat aussi avec l'histoire de CNews. Est-ce que vous avez suivi un petit peu
Ils étaient devant l'Assemblée nationale.
Parce que, en fait, la semaine d'avant, le 26 février, ils ont présenté dans l'info que l'avortement causait 73 millions de décès par an.
Yes.
comme première cause de mortalité dans le monde. Et c'était... Bon, ils ont présenté leurs excuses depuis, mais ça, quand même, ça montre un climat particulièrement austère, en tout cas autour de cette chaîne privée.
Après, c'est CNews. Hein.
Ouais,
ah, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que ben, ils sont toujours encore
à l'antenne.
Ils sont toujours à l'antenne pour dire des énormités pareilles.
Après, ce qui est assez, en quelque sorte, rassurant, c'est qu'il y a eu la réaction derrière. Donc, on a des personnes qui sont passées en session parlementaire, en commission parlementaire. Donc, c'est un plaisir de voir Pascal Praud se faire aligner.
Mais sinon, pour une nouvelle un petit peu moins bonne, c'est Harald.
Harald qui a chopé une petite infection en Malaisie.
Et c'est en vacances.
86 ans, on peut toujours voyager super loin, les gars. C'est la bonne nouvelle. Et c'est en vacances qu'il a eu l'infection. Et là, du coup, il est il y a quelques jours, deux jours, il a pris l'avion retour vers la Norvège.
On lui sait de se rétablir très vite du roi Harald, qui est le plus vieux monarque en exercice.
Ouais.
86 ans.
Oui, effectivement. Puis sachant qu'avant, c'était la reine du Danemark qui a abdiqué. Puis, non, il faut qu'il tienne le coup. Attends, le 17 mai, c'est dans deux mois.
Il faut qu'il prenne des vitamines. Quoi, On va enchaîner avec une partie de l'histoire du féminisme en Norvège.
Mais tout à fait. Comme tu l'as dit, on arrive au 8 mars, droit international, la journée du droit international des femmes. Mais moi, je propose de revenir même plus de 210 ans en arrière, donc en 1814. Donc c'est le moment où la Norvège a eu sa constitution. Au moment où elle était encore toujours dans une forme de domination, d'alliance avec la Suède. Alors en 1814, la Norvège ne considère pas vraiment les femmes comme des citoyens. Stan expliquera plus tard qu'on ne pouvait pas encore voter, mais comme certains mecs aussi, il n'y avait pas tous les mecs qui pouvaient voter, il fallait payer un certain montant en capital pour pouvoir participer au vote. Mais ce qui va se passer dans le 19e siècle va permettre un peu d'aider les femmes à gagner des droits. Parce qu'en fait, on a un pays qui s'industrialise.
Industrialise.
et on a aussi les mecs qui se barrent aux États-Unis.
Parce oui,
que
oui,
on rappelle que la Norvège est le deuxième plus grand pays en termes de rapport à la population d'émigration vers les États-Unis. On se retrouve du coup avec des familles soit brisées, parce qu'on peut avoir des hommes qui partent, des hommes mariés qui partent, ou alors des femmes juste qui évoluent toutes seules en fait dans la vie. Et comme les femmes à ce moment-là ne pouvaient pas encore, enfin en tout cas début du 19e, ne pouvaient pas encore travailler, ben progressivement on va leur ouvrir des droits au travail. On va avoir d'abord les femmes non mariées et veuves de plus de 40
précis,
ans
ouais.
En 1839 vont pouvoir commencer à travailler des métiers. Il
n'y a vraiment plus aucun espoir qu'elles vont faire des gosses, donc
ouais,
c'est le droit de bosser.
Dédiez-vous au travail maintenant, il faut être productive. Et ensuite, bon, ça va s'étendre jusqu'en 1894, où va progressivement avoir des métiers qui vont s'ouvrir aux femmes mariées et encore plus jeunes.
Alors,
après, il ne faut pas non plus se tromper sur la condition des femmes au début du XXe, parce qu'en fait, la Norvège va avoir une espèce de crise économique, en tout cas un ralentissement économique, qui va faire qu'on va se retrouver dans une situation un peu paradoxale, c'est une sorte de régression finalement du droit des femmes à travailler, parce qu'on va avoir hausse du chômage et les syndicats, et même le parti de gauche, là, qui est l'Arbeid, considèrent que la priorité doit aller dans un couple, la priorité du travail doit aller à l'homme, considèrent que c'est la femme, c'est pas vraiment sa place à cet endroit-là. Donc on va avoir des campagnes des syndicats qui vont décourager les femmes d'aller travailler. Et on va avoir des municipalités comme celle d'Oslo qui vont licencier des femmes mariées à cette époque-là. Donc on est plutôt dans les années 20, donc c'est pas la grosse qui fonce pour dans le monde en général.
Okay.
Et après, au niveau de la majorité, on va avoir des publications qui vont avoir lieu, qui vont commencer à défendre le fait que la femme puisse aussi avoir, puisse ne pas forcément très bien accepter le mariage forcé.
Ah bon?
Donc on va avoir une écrivaine norvégienne qui s'appelle Camilla Collette qui va rédiger en 1854 une fiction sur sa vie, une fiction inspirée sûrement de sa vie, où elle va aborder la difficulté, à travers un personnage, la difficulté d'être dans un mariage forcé, d'avoir des sentiments pour la personne à laquelle on n'est pas marié. Et il va aussi aborder la question des relations amoureuses extra-conjugales. C'est pas la seule à faire ça. Dans le monde scandinave, on commence à voir la littérature comme ça apparaître, notamment en Suède, Carl Jonas Love. Et parce que du coup, la femme était encore énormément soumise à son mari en termes juridiques. Les femmes norvégiennes n'étaient pas encore majeures jusqu'en 1863. Ça commence à changer. Les femmes célibataires deviennent majeures à 25 ans en Norvège en 1863. Ensuite, ça va être abaissé à 21 ans. Et ça viendra pour les femmes mariées seulement en 1888.
Mais quelle est la différence avec les hommes? Quel âge ils deviennent majeurs?
Alors, je pense que les hommes, en tout cas, c'était aux alentours de 25, 21 ans aussi. Mais du coup, ce qui se passait, c'est qu'une femme ne pouvait ne pas avoir de majorité légale toute sa vie.
D'accord.
Donc si elles étaient rattachées à leur mari, c'était leur mari qui endossait la sorte de la majorité juridique ou la majorité légale. Tout se passait par le mari, en fait, pour contracter un prêt, pour d'autres formes d'autorisation. Et le droit de divorce apparaît en 1909. Donc voilà, ça c'est pour la partie majorité légale et haute place de la femme peut-être dans le couple. Et après, on va avoir au niveau salarial et social des progressions qui vont commencer à se mettre en place à la fin du 19e siècle. On commence à avoir une jonction en fait, des luttes féministes et sociales. Et on va notamment avoir une personne en Norvège qui est Margaret Bonnevie, qui a un nom français, qui a quelques liens avec la France. Elle a passé 2 ans en France, elle aura de l'ascendance française aussi, qui, à partir de 1920, va commencer à se dédier à défendre le droit des femmes à travailler, à avoir un salaire égal avec les hommes, des congés maternité, la construction de crèches, la dépénalisation de l'avortement. Et on va effectivement voir tous ces progrès. Donc, en 1920, on a une égalité théorique des salaires qui va apparaître avec les hommes. On va supprimer une espèce de grille de salaire qui était spécifique aux femmes. Mais ça, il n'empêche que 60 ans plus tard, on va se retrouver avec des écarts de salaire quand même. Ensuite, en 1936, on va avoir les premiers congés payés, donc 6 semaines avant et 6 semaines après la grossesse. Toujours ça de prix. Et après, en 1975, on va aussi avoir une loi sur les crèches qui va apparaître. Chaque commune est censée proposer un plan de développement de crèches. Parce qu'on commence en 1945 avec 5% des femmes qui travaillent et on commence à arriver, je crois, avec un taux de 60% aux alentours des années 70.
Une grosse progression.
Ouais. Et également, en 1978, on va avoir une discrimination à l'embauche qui est interdite. Et ça va même plus loin. Si une entreprise a des femmes pour un même poste, un homme et une femme qui ont les mêmes compétences, elle est autorisée à faire la discrimination positive pour les femmes.
Wow.
Et après, au niveau de l'avortement, comme c'est un peu le gros sujet aussi aujourd'hui, en 1915, c'est interdit. Et en 1959, c'est là où ça va commencer à changer. On va avoir l'avortement qui est autorisé si la vie ou la santé de la mère est gravement menacée. Et dans tous les cas, la femme doit se présenter en face de deux docteurs, donc qui vont se comporter un peu comme une commission, qui doivent décider de son cas.
Ah, c'est les docteurs qui décident pour elle.
Et ça peut encore, on peut avoir du coup des variations région par région. On peut avoir peut-être des docteurs qui sont progressistes dans une région plutôt que dans une autre. Mais l'histoire de la commission, ça se poursuit encore aujourd'hui en fait. Parce que 1974, on demande d'avoir un droit. L'interruption volontaire de grossesse est rejetée au Parlement.
D'accord.
En 75, on part de la première loi qui dit qu'on peut faire un IVG seulement pour des raisons de santé de la mère. Là, on ajoute à ça les critères sociaux, si la femme ne peut pas forcément subvenir aux besoins de son enfant.
Ce qui est un très bon critère.
C'est déjà un bon critère. Et après, en 78, on va autoriser enfin l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. Et après la 12e semaine de grossesse, on passe devant un bureau de médecin, encore une fois. Et c'est encore le cas en ce moment. À partir de la 12e semaine de grossesse, on passe encore en commission. En France, tu as deux rendez-vous avec un médecin. Le premier, je pense que tu commences à discuter de la chose. Le deuxième, où tu dois commencer ton traitement ou parler de l'intervention chirurgicale. Et ensuite, dans les années 2010, donc le droit à l'IVG est un peu remis en cause en Norvège. Donc en 2014, il y a le gouvernement qui demande à ce que les femmes... qui autorise en fait à ce que le médecin référent des femmes effectue un droit de retrait. Donc avant, les femmes devaient se rendre d'abord chez le médecin, lui dire « je veux avorter ». Ensuite, le médecin redirigeait son dossier vers la commission ou après deux semaines ou avant deux semaines, lui faisait suivre un traitement. Et là, le docteur, son docteur du coup référent, peut effectuer son droit de retrait en 2014, s'il veut.
C'est-à-dire
qu'il peut dire « moi, je veux pas gérer votre cas, vous allez voir quelqu'un d'autre ».
Ça met des bâtons dans les roues
des femmes. C'est pour ça qu'on parle de régression, mais c'est super récent. Et en 2018, il y a encore une autre forme de régression qui est soumise, qui a pu avoir changé, mais en tout cas, ça arrive. Et je crois que c'est en vigueur. Mais il y a le Parti chrétien, qui est membre du gouvernement, qui a poussé pour que l'avortement du deuxième fœtus, ou si vous avez des jumeaux... doivent passer en commission encore une fois avec les médecins, même si c'était 12 semaines avant. On a des jumeaux, la personne veut avorter d'un des fœtus. Il faut qu'elle passe en commission en face du médecin. Et comme on parle de cette commission de médecins, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Il y a un très bon exemple dans la série MACTA qui est beaucoup centrée sur une première ministre de Norvège, qui a beaucoup marqué la Norvège, qui s'appelle Gro Harlem Brundtland, qui est aussi appelée la mère du pays. Et en fait, cette femme, ça a été d'abord un docteur et elle faisait partie de ces commissions. Elle va réussir à rentrer en politique. Et dans les années 80, elle va devenir trois fois chef de gouvernement. Elle va commencer sa carrière en étant ministre de l'Environnement en 1974. Et elle va avoir l'époque où la Norvège se déploie beaucoup le pétrole. Ouais. Et elle va dans un milieu très masculin. Elle va devoir ralentir un peu les appétences de ses ministres industrie et économie qui poussent au développement du pétrole de manière un peu hâtive. Et elle, en tant que ministre de l'Environnement, elle doit un peu les restreindre et avoir le souci des contraintes environnementales, des contraintes de sécurité. Ouais. Et elle n'a pas eu tort parce qu'en 1977, tu as une plateforme pétrolière qui explose. Et c'est là qu'elle va être propulsée internationalement parce que là, tout le monde va s'intéresser à la Norvège. Qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme? Comment le gouvernement prend les choses en main? Et en fait, on a énormément de télé du monde entier qui s'intéresse à la Norvège et c'est elle qui va apparaître souvent en premier plan parce que c'est la ministre de l'Environnement, elle est en charge de ce dossier. Mais bon, au-delà de sa visibilité, elle va permettre d'introduire des règles qui sont notamment la règle des 40%. On entend souvent parler en Norvège. Elle a poussé pour que dans son parti, donc qui est l'Arbeid Party, donc parti travailliste, un peu le PS local, il y a toujours 40%, au moins 40% de femmes. Que ça soit au niveau du gouvernement, que ça soit au niveau des comités, que ça soit au niveau, je pense, des listes parlementaires aussi. Et cette règle va ensuite appliquer du coup aux grandes entreprises publiques en 2002, et ensuite ça va être appliqué aux plus grosses entreprises et aux PME, je crois que ça, janvier 2023, une loi comme ça qui est passée.
Ouais.
Donc en tout cas, ouais. Quand je dis 40%, du coup c'est 40% du leaderboard, du comité d'entreprise,
des dirigeants qui
doivent être des femmes au moins.
Merci pour cette belle chronique, Valentin. On va faire une petite pause musicale.
Bah, du coup, la grosse révélation de la victoire de la musique, c'était Zao de Sagazan. Et je pense qu'on a tous, on a été marqués par la musique qui est la Symphonie des éclairs.
Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs.
Brisons la glace.
Et bien de retour dans notre émission Brisons la glace spéciale droit des femmes. Et justement, on va parler de droit avec toi, Stan. Tu nous as préparé une petite chronique.
Moi, je vais vous parler un peu du droit des femmes en Norvège, un peu les prémices, mais tout ce qui s'est passé autour, comment c'est arrivé. Donc, il faut savoir que le 11 juin 1913, donc ça fait exactement 111 ans, la Norvège était le premier pays souverain en Europe à octroyer le droit de vote aux femmes. En fait, c'est pas l'influence grandissante des féministes qui a fait que ce pays était un précurseur, mais on va dire que c'était plutôt en particulier une pièce de théâtre intitulée Une maison de poupée d'Henrik Ibsen, célèbre écrivain norvégien, dont je vais en toucher un mot dans quelques instants. Le scrutin norvégien de 1913 est historique à plusieurs niveaux, puisqu'il consacre le principe du suffrage universel, donc un homme égal à une voix, un homme avec un grand H, quelle que soit la condition et le revenu. En fait, c'était loin d'être le cas partout en Europe. Parce qu'il y a un exemple, par exemple, en Belgique à l'époque, c'était le suffrage universel masculin nuancé du vote plural. Donc, c'est-à-dire qu'un homme avait droit à une ou deux voix supplémentaires en fonction de ses diplômes et de ses revenus. Mais...
un vote bonus, quoi.
Exactement, okay. Le petit vote bonus qui fait doctorant, plaisir. Hein, alors qu'en Norvège, en 1913, un homme a le droit à une voix, mais aussi une femme a droit à une voix. Donc, non seulement elles sont électrices, mais elles peuvent aussi être éligibles.
Ah.
Elles peuvent se porter candidates. Et vous allez me dire, cette éligibilité, c'est pas la première en Europe. Et vous avez raison, puisque c'était déjà le cas en Finlande en 1906. Mais à l'époque, la Finlande n'était pas indépendante. Donc on va dire que ça compte pas vraiment.
Ah, et c'était pas un pays, tu veux dire ?
Oui, ils étaient sous régime russe à l'époque.
D'accord.
Donc c'était pas indépendant. Alors j'ai trouvé d'autres exemples hors d'Europe. Donc par exemple, il y avait la Nouvelle-Zélande. La première mondiale, c'était en 1893, qui a été suivie de peu par l'Australie. Mais en Nouvelle-Zélande, les femmes avaient le droit de voter, mais ne pouvaient pas être élues. Et en Australie, c'était uniquement les hommes et les femmes blanches. Et les aborigènes étaient exclus complètement du scrutin. Pour toutes ces raisons, c'est pourquoi le droit de vote accordé en Norvège en 1913 aux femmes sans restriction dans un parlement qui était souverain à l'époque est une première. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Norvège pour que le pays soit avant-gardiste sur le droit de vote des femmes? Et bien, comme je l'ai dit en introduction, c'est grâce à la littérature, à Henrik Ibsen. Donc c'est l'écrivain norvégien le plus connu à la fin du 19e siècle. Et il a publié une pièce de théâtre donc qui a eu un succès, on va dire, retentissant, intitulée « Une maison de poupée ». Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous la résumer brièvement. Donc Nora, c'est une épouse discrète et docile de Helmer qui tombe gravement malade. Pour le guérir, le médecin prescrit un voyage en Italie, loin du climat humide et froid de la Norvège.
Sympa.
Ça fait plaisir. Et
les premiers vols vers Sidon.
Et Nora doit trouver de l'argent. Donc, elle va faire un faux en écriture. Et quand Helmer l'apprend, il est furieux. Donc, pour se défendre, Nora dit qu'elle a agi par amour, avoir agi par amour. Mais Helmer n'accepte pas cette excuse. Et Nora, du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a toujours été traitée comme une poupée par son mari. et par son père, et donc elle va décider de s'émanciper. Alors à l'époque, la pièce a été jugée un peu scandaleuse puisqu'elle remettait en cause l'ordre familial, mais aussi elle a servi de tremplin à la cause féministe en Norvège. La Norvège, puis les voisins, donc Suède, Danemark et Finlande, ont décidé à ce moment-là de prendre une longueur d'avance sur le reste de l'Europe en ce qui concerne les places, la place de la femme dans la société et la vie publique. Voilà, c'était un peu les prémices du droit des votes de femmes en Norvège. Il y a beaucoup plus à dire, mais c'était vraiment le tout début. Et on peut se rendre compte, en fait, vraiment de l'influence de la littérature à l'époque aussi. Et d'Henrik Ibsen, qui a fait un peu...
Ouais, c'est marrant que, ça, que le progrès vienne de l'art.
Après, tu avais une belle vague littéraire à la fin du 19e, quoi. Madame Bovary, Flaubert. Après, en France, c'était pareil. Tu avais pas mal de livres comme ça qui parlaient de la condition des... qui commençaient à toucher un peu la condition des femmes. Et ce serait intéressant de creuser ça, justement. Mais par contre, il y a eu pas mal de... En fait, 1913, du coup, c'est passé. Mais en fait, il y a eu pas mal de tentatives aussi de vote. Il y a eu plusieurs soumissions au vote au Parlement.
Précédemment,
en fait, pour ouvrir le droit de vote aux femmes.
Okay.
C'était c'est un peu norvégien. C'est demander, on refuse. Bon, bah, vas-y, on va recommencer encore une fois.
On réessaie dans deux ans.
Et puis, au bout d'un moment, ils ont réussi à avoir ce fameux droit de vote.
C'était quand même 30 ans avant la France.
J'avais déjà mon sujet pour aujourd'hui avec cette émission spéciale femmes, mais bon, je me suis dit, je vais garder ma curiosité. Je vais aller faire un tour sur Wikipédia, mon bel ami Wikipédia, et je voulais vous présenter d'abord tous les sujets dont je ne vais pas parler ce soir. Donc, je ne parlerai pas du 16e jour du mois de Ventose, officiellement dénommé le jour de l'épinard.
Ah, je suis deg.
Deg. Mais je vous garde deux questions à la volée. Attention, c'est une question de rapidité. De quelle région du monde est originaire l'épinard ?
Italie ?
Espagne ?
France ?
Pourquoi vous êtes en Europe ? C'est l'Asie centrale. Vous êtes pas câblé encore.
Oh là là.
Quel est le pays qui produit le plus d'épinards dans le monde ?
La Chine.
Oui, avec 24 millions de tonnes par an et de très 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 très, très loin. 94% de l'épinard est produit en Asie.
Ah ouais ?
Carrément. Je ne parlerai pas non plus de l'anniversaire de Guy Montagnier, 75 ans, qui n'est pas le frère de Gilbert, mais qui est un acteur.
Je vais plus faire de blagues dans cette émission.
Il a doublé Donald Duck, il était aussi présent dans Les Grosses Têtes. Et enfin, je ne parlerai pas de la Saint-Colette, on les embrasse quand même, parce que des mois après le quiz des Girards, j'ai voulu faire l'honneur aujourd'hui au Brigitte.
Ouais.
Top.
Alors, pour ce quiz, on commence avec une question d'origine. Quelle est l'origine du prénom Brigitte ?
Brigitte.
Qu'est-ce que ça veut dire ? De quel pays ça vient ?
Ça vient pas d'Allemagne ?
L'étymologie de ce truc.
L'étymologie. Parce qu'il y a plein de versions dans plein de langues.
Pour moi, ça vient de Roumanie, non ?
C'est hyper précis.
Je connais une Brigitte d'origine roumaine, du coup, je sais pas si ça peut marcher.
Oh, faut tenter. Hein.
C'est rien à perdre.
Non.
C'est en Europe ?
Oui. C'est présent en France et en Grande-Bretagne.
Ok. Oh, oui.
Les Celtes, le prénom du nom de la déesse Brigitte Brigantia. La racine briga signifie élevé en gaulois.
On parle de la Roumanie finalement.
Non, du coup, la Roumanie, non. Donc il y a plein de versions en allemand, etc., en danois. Mais ça, ils inversent du coup le R et le I. Donc c'est plus Brigitte, c'est Birgit.
Birgit.
Donc si on combine les Brigitte, les Birgit norvégiennes, combien de femmes en Norvège ont le prénom Brigitte Birgit ?
13 000 ?
20 000.
Plus ou moins ?
Ah, mais je dis rien.
Vas-y, très bien.
Brigitte !
Combien est Brigitte ou de Birgit ?
Allez, un petit 22 000.
Ah, vous êtes vraiment hyper généreux. Il y a 5 629 Brigitte ou Birgit en Norvège.
C'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup. Mais il n'y a que 156 Brigitte. Donc c'est plus la version Birgit.
Ça sent l'erreur quand ils ont déposé.
La syntaxe.
Le parent trop heureux. Genre.
Et le prénom des Birgit a eu un pic en 1990 en Norvège. Je pensais que c'était bien plus tôt. Mais par contre, est-ce que vous saurez me dire en quelle année le prénom Brigitte a eu le plus de succès en France ?
2017.
Non.
non.
64.
Oh, c'est très précis.
Ouais, en vrai, je dirais dans la même zone, 68.
Ah, on va donner le point à Anaïs, c'est en 59. Ah. Il y a quand même 18 000 Brigitte qui sont nées cette année-là. En France, après la région parisienne, quel est le département qui a vu le plus de Brigitte y naître depuis 1900 ?
Loir-et-Cher.
Super précis.
La région Nord.
Oui,
c'est celte.
C'est ça, 15 562 Brigitte sont nées dans le Nord depuis 1900. Donc on a Paris, le Nord et le Pas-de-Calais. Donc c'est vraiment hyper centré.
Proche des origines, en effet.
C'est ça. Ouais. Combien y a-t-il de Brigitte recensées en France à l'heure actuelle ?
15 000.
En tout, de qui sont nées et qui vivent encore.
Attends, qui vivent encore ?
Ouais.
500 000.
Attends, sur 60 000, millions, non.
Il y aurait moins de
Brigitte. Combien de Brigitte, Stan ?
Un petit 125 000.
Ouh, t'as dit combien, toi ?
500 000.
13 000.
13 000 ! Non, c'est pour Stan, 200 000. 202 000. 202 000 Brigitte en France à l'heure actuelle.
J'ai aucune notion de rien.
J'abandonne. Deuxième manche du quiz. Là, c'est du vrai ou du faux. Donc, faut juste faut dire vrai ou faux. Première question. L'un des membres du groupe Brigitte s'appelle Brigitte.
Vrai.
Ouais. Ben non, c'est faux. C'est Sylvie et Aurélie.
Rien à voir.
Valentin, tu connaissais le groupe ?
Oui, je connaissais le groupe. Ouais.
Point pour Anaïs. Ah, on compte pas les points.
J'en ai deux.
Ah. Ok, donc 2 points pour Anaïs. Oui, t'as des points, toi ? T'as un point, toi ?
Oui, j'ai un point.
T'as eu un point.
Je crois que je suis à 0, moi.
T'as 0. Donc ça fait 0, 2 et 1. Ok, Anaïs, elle mène la danse.
Oh, vous me laissez gagner, c'est la journée d'affaires.
On fait exprès.
Ok, deuxième question, vrai ou faux. Brigitte Sy est la mère de Louis et Esther Garrel.
Hein ?
Garrel, je connais, mais alors... Sa mère... Ah si, ils viennent du Nord, là, je dis oui.
Ouais, c'est vrai.
Allez.
Un point pour Stan.
Allez.
Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui a un point. Ok. Attention, Brigitte Bardot est plus jeune que Brigitte Fontaine.
Vrai.
Vrai.
Non, c'est faux. Bardot est née en 34 et Fontaine en 39. Donc, 0 point. Donc, on est toujours... T'as pris un point ?
39 en Fontaine. Non, j'ai rien pris.
T'as toujours 0, toujours 2. Oh, 2-2.
Je fais la voiture balai, moi.
Attention, Anaïs, tu te fais rattraper, là.
J'aime pas ça.
Ok. Attention à prendre avec des guillemets. Brigitte Lay n'a travaillé que 4 ans dans le monde des films X. Vrai ou faux ?
Ouais.
Faux plus.
Qu'elle a tourné, parce qu'après, elle avait longtemps. C'est à la Radio Hot, je crois.
On parle de tourner dans les films X.
Bah ouais, je pense qu'à la manière de Clara Morgan, qui a une carrière.
J'en ai plus. Donc tu dis que c'est faux, tu dis que c'est vrai, Valentin ?
Je dis que c'est vrai, mais je la connais pas, cette personne enchantée.
Tu connais pas Brigitte ?
C'est une génération.
Moi, je la connais pas.
Oh là 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 là. Ouais, attends, c'est Brigitte. Hein. Mais point pour. T'as dit vrai ?
J'ai dit vrai.
Vous avez point tous les deux. Elle a travaillé que 4 ans et après, elle a continué de faire des soft films, mais ce n'est pas considéré comme les films X. Elle a fait un comeback en 2020, elle a refait un film, genre pour sa dernière. Voilà. Après des années, effectivement, dans le monde du podcast et de la radio.
C'est Brigitte comment déjà ?
Brigitte Lay. Hey ouais.
Question là, c'est genre mature.
C'est un wifi public, Stan, ne fais pas ça.
Elle a quel âge ? Plus de 60 ans, je pense.
Oui, bah, elle est plus toute jeune, hein, mais elle est plus jeune que Brigitte Bardot et Brigitte Fontaine.
Expérience.
Ok, question suivante. C'est bon, t'as raccroché les wagons un
C'est bon,
non,
mais je vois qui c'est.
Une rumeur éclate en 2022 que Brigitte Macron et Netronieu seraient en fait un Jean-Michel. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai.
Gros scandale en 2022.
Qu'elle est trans ? Non, j'ai pas compris.
Non, que c'est un homme.
Oui.
Une journaliste indépendante avait diffusé sur YouTube une vidéo de 4 heures ayant pour but de démontrer que Brigitte Macron était en fait un homme transgenre,
qui était
prénommé Jean-Michel.
Qui a été repris aussi par des médias russes et tout, hein, tout pour, à fait. Pour une propagande.
Wesh. Donc une affaire en diffamation est en cours et une au pénal. Donc Brigitte Macron a fait un carton plein en cyberharcèlement l'année dernière.
Désolé Pascal Pro.
Désolé. Dernière question de cette deuxième manche. Bon, de toute façon, là, il faut y aller au talent. Ok. Brigitte Lay et Brigitte Fossé sont nées dans la même ville.
Oui, allez, pour la beauté de l'histoire.
Faux.
Anaïs, ça réfléchit beaucoup trop.
Elle est en train de consulter les dossiers de naissance ou qu'est-ce qui se passe hein.
Lay, le Fossé, on est dans la campagne, allez, oui.
Ouais, elles sont toutes les deux nées à Tourcoing.
Ah oui.
La réponse, c'est Bardot, Fontaine ou les deux.
Okay,
est-ce que tu vois qui est Brigitte Fontaine ?
Non, mais je vais regarder parce que... Brigitte Lay, Brigitte Fontaine,
le pauvre,
ça fait beaucoup de Brigitte. Je connais Brigitte Macron, c'est déjà bien.
Alors, là, c'est question de rapidité. Hein.
Ouais.
Ok ? Donc, c'est le premier qui répond qui a le point. Ah oui, d'ailleurs, si vous répondez faux, vous donnez un point aux autres.
De toute façon, on va oublier.
Ah oui, ok, d'accord.
Oh, wow. Ouais. Donc, c'est là, impossible de compter, là.
On on est perdu.
Vas-y, allez.
Donc, 2 points pour Valentin, 3 points pour Stan et 4 points pour Anaïs. Première question, Brigitte Bardot, Fontaine ou les deux? Qui est signataire du manifeste des 343 salopes?
Bardot.
Bardot.
Mais non, c'est Fontaine. Bardot n'a pas...
Valentin n'a pas répondu.
Non. Ah non, je...
Ah, oh, un point pour pas... Valentin.
Ah oui, il joue tactique. Ok,
attention,
d'accord.
Ça paye toujours.
Pour les questions suivantes, il va falloir que tu répondes quelque chose.
Ça marche.
Parce que gagner par abstention...
Et je vais perdre de toute façon, mais allez-y.
Ok, qui est né à Paris?
Fontaine.
Non, c'est Bardot. Un point pour Anaïs, un point pour Stan.
C'est mon père chez Fontaine.
Qui est actrice?
Bardot.
Les deux.
Anaïs, tu prends un point. Qui a été piégé par Raphaël Mesrahi?
Fontaine.
T'as dit quoi?
Fontaine.
Ok, oula, la rapidité, Valentin. Il prend le point de Brigitte Fontaine. Qui a été piégé par Raphaël Mesrahi de sa caméra cachée.
Et moi, on avait parlé.
Qui l'avait pris pour la maquilleuse.
J'ai revu il n'y a pas longtemps par hasard. Et c'est vrai qu'elle
une
est très,
séquence
très drôle,
mythique. Ok, on est presque à la moitié. Qui est fumeuse?
Fontaine.
Bardot.
Les deux. Zéro point.
En même temps, ils sont doutés, quoi.
Ok. Qui a collaboré avec Mesrahi pour sauver des tigresses et les ramener en Mayenne?
Bardot.
Yes. Tu mets les points en deux. Qui s'est marié 4 fois?
Bardot.
Non, un point pour Stan.
On compte la réponse.
Ok, 3 dernières questions. Qui a remporté la grande médaille de la ville de Paris?
Bardot.
Les deux.
Fontaine.
Les deux. Un pour Valentin.
Quand je dis, je dis les deux.
Dans le doute. Ok, 2 dernières questions. De qui s'est inspiré le groupe Brigitte?
Les deux.
Yes. Dernière question.
Remontada.
Qui... Ah oui, c'est quoi les points avant la dernière question? On en est où?
4, 5, 6, 7. 7 pour Stan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour Valentin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pour Anaïs.
Oh là là, mais c'est la question qui va vous départager.
La question,
La question qui tue. Qui a collaboré avec M et Grand Corps Malade?
Les deux.
Pas les deux.
Mais oui, donc qui?
Fontaine.
Yes.
Ah.
C'est Fontaine qui a collaboré avec M et Grand Corps Malade.
Et bien voilà, Anaïs.
Vous avez survécu à votre quiz des Brigitte. Ça vous a plu?
C'était top.
Super, ouais, faudrait qu'on en refasse plus souvent. C'était très sympa, non?
Mais pas sur les Brigitte, parce que t'es.
Non, pas sur les Brigitte, je maîtrisais que Brigitte.
Faut creuser le sujet. Hein,
des Brigitte de moins de 80 ans.
Ouais, c'est ça. Des Brigitte Bardot, ça va, tu vois, mais en dessous, c'est trop vieux.
Prendre des petits méos maintenant.
On va faire une petite respiration musicale. Mais on va écouter Brigitte qui va nous jouer. Battez-vous.
Brisons la glace.
Et bien de retour dans notre podcast Brisons la glace. On a fini avec les Brigitte. Et on va passer avec toi, Anaïs. Tu nous as repéré des startups.
Oui, alors on change un peu de sujet. Moi, je ne vais pas revenir 200 ans en arrière, loin de là. Donc, un sujet qui me tient à cœur, étant moi-même fondatrice de startups en Norvège. Je vais vous parler de startups norvégiennes, donc fondées par des femmes, dont je trouve personnellement l'idée hyper cool et qui vaut le coup d'être mis en lumière. Donc, bon, juste pour moi, la définition de la startup, c'est une idée innovante sur une hypothèse d'évolution d'un secteur et aussi sa capacité de passer, donc de commencer de 0 à 1, mais ensuite de scaler, donc de passer de 1 à 1000. Donc, je garde tous ces deux facteurs en tête pour un peu définir une startup. Donc, la première dont je voudrais parler, c'est Strize, qui a été fondée en 2019 par Marit Redevand. Donc, c'est dans le secteur de la big data, machine learning, intelligence artificielle et au service de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Ah, super.
Donc, le constat, c'était que, bon, bien sûr, il y a l'augmentation de sociétés écrans et de montages financiers hyper créatifs pour dissimuler la provenance de fonds sales. Donc, par exemple, trafic en tout genre, hein, corruption, paradis fiscaux. Et donc, ça devient hyper dur de tracer la provenance de l'argent. Et donc, quand il s'agit de la remettre en circulation de façon propre, via des investissements, par exemple. Et donc, son service s'adresse aux entreprises, bien sûr, qui managent ces flux d'argent.
Et donc, elle a proposé un système automatisé, donc grâce au big data et à l'intelligence artificielle, de compliance à 360 degrés, de monitoring de tous les nouveaux clients, de toutes les nouvelles rentrées d'argent, et donc de permettre de red flaguer les origines douteuses vraiment en avance ou en revenant très loin dans la chaîne d'entrée d'argent. Donc, c'est un peu niche comme sujet, mais le sujet du crime financier est vraiment hyper important. Et si ça vous intéresse, Marit, donc la CEO, anime un podcast qui s'appelle The Laundry, donc pour Money Laundering.
Ah, c'est en anglais?
Ouais.
Pas en norvégien, ok, cool.
Pas en norvégien, non, ouais. C'est en anglais. Donc, sa société est située à Oslo et aussi à Londres. Et dans son podcast, elle invite des experts du secteur bancaire, de la fintech et du journalisme d'investigation pour discuter de ces sujets. Donc, je vous mettrai le lien aussi dispo.
C'est super d'actualité avec c'est ce qui se passe avec les crypto-monnaies, etc.
Exactement. Et
tout ce qui se passe, les manipulations des élections, il y a quand même pas mal de...
Absolument. Ouais. Deuxième start-up, rien à voir, fondée en 2016, donc ça s'appelle Playfinity. Donc, c'est à la base fondée par quatre copains. Mais quand ils ont dû passer en phase de scaling, ils ont invité Pippa Bootman pour devenir CEO et donc rentrer dans cette phase de croissance intense. Donc c'est dans le secteur du sport et de la technologie. Alors le constat, c'est que les enfants sont de moins en moins actifs et doivent renouer avec les activités sportives d'extérieur sur leur temps de loisir. Donc ils ont développé quatre produits, dont entre autres une balle de baseball et un ballon de football, qui sont connectés à une app et qui permettent de mesurer les performances, obtenir du feedback en temps réel, jouer en réseau et proposer des jeux donc via cette app.
Donc c'est non pas seulement pour jouer tout seul, mais pour jouer avec potentiellement d'autres personnes qui ont l'application.
Voilà. Jouer seul, mais aussi jouer en réseau éventuellement, mais aussi jouer en groupe. Voilà. Donc c'est possible d'y jouer à partir de 6 ans. Le produit est disponible à Anton Sport et sur leur site internet. Ils ont clôturé une levée de fonds, donc bravo à eux, dont avec des investisseurs français. Et ils cherchent bien sûr des partenaires sportifs, des retailers, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment, je pense, une start-up à suivre. Et enfin, la dernière, c'est mon petit soft spot. Elle a été fondée juste en 2023. Et la cofondatrice et CEO est une de nos compatriotes.
Ah, Cocorico.
Oui, Annabelle d'Angreville. Donc, c'est dans le secteur du media monitoring et media intelligence. Donc, le constat, c'est que la veille médiatique n'existe que sur les médias écrits. Donc, presse digitale, réseaux sociaux. Mais ça n'existe pas sur les supports audio, comme le podcast, qui sont en explosion. Donc, elle a proposé ils ont mis en place un logiciel de service pour alerter quotidiennement tout ce qui est dit sur une personne publique, une entreprise, un secteur d'activité sensible, et d'analyser déjà sur ce qui est dit, si c'est positif, négatif ou neutre, et aussi d'en donner la source. Donc, ça permet le contrôle de son image ou de son entreprise, bien sûr. Et donc, c'est possible de le faire de détecter en 6 langues pour le moment. Et l'idée pour eux, c'est de s'étendre aussi à YouTube et TikTok à moyen et long terme. Donc ça s'adresse bien sûr aux entreprises qui sont souvent citées dans les médias, mais aussi aux agences de relations publiques.
Est-ce que je comprends bien en comprenant que c'est aussi pour lutter contre la désinformation ?
Absolument. Donc si on voit qu'on est cité et que ça permet de réagir très vite et donc de se retourner, absolument.
Ah, génial. Ouais. Ça manquait, ouais.
Complètement. Et donc, ils en sont au stade donc, où ils ont lancé le logiciel et ils cherchent des clients pilotes, donc dans un premier temps.
Bah, brisons la glace, on peut...
Donc, ouais, appel à...
volontaire. On va être écoutés, nous, c'est ça.
Exactement.
Pascal Pro peut être client.
On en a parlé avec Annabelle, elle a dit bah, « je vais tester mon propre produit avec votre podcast.
Ah,
je vais
génial,
lancer une alerte sur ma boîte et on va voir si votre podcast...
On a dit plein de bêtises.
On va voir si ça ressort en positif et négatif.
Il fallait que ce soit vrai, en fait.
Et aussi, il prépare une petite levée de fonds. Donc, s'il y a dans nos éditeurs des business angels, des venture capital qui souhaiteraient rentrer au capital de l'entreprise, bah, voilà, faudrait les contacter. Dernier fact, et ça fait le pont avec la levée de fonds, qui est une étape souvent cruciale pour justement avoir la possibilité de scaler. Oslo Business Region a publié il y a trois mois des chiffres absolument aberrants. 0,7% des fonds levés sont à destination des équipes de femmes fondatrices.
Oh oui. Ah, c'est ridicule.
4,4% aux équipes mixtes et 94,7% aux all funding teams, all men funding teams. Bah, en fait, on prête à ceux qui nous ressemblent. Qui a les capitaux ? Souvent des hommes dans ces fonds. Souvent, les business angels sont souvent des hommes. Et donc, voilà.
c'est très peu. Il y a énormément de prise de conscience qui est fait là-dessus quand même. Mais bon, je sais pas tout de suite comment avoir ça changé. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui s'organisent en fond ensemble les femmes investissent dans les femmes. Voilà. Donc on voit de plus en plus ce genre d'initiative parce qu'on remarque aussi que les femmes ont tendance, les startups montées par des femmes ont tendance à mieux réussir que les startups montées par des hommes.
Bien, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette émission.
Merci à
vous. Je pense à toutes les femmes autour de nous dans nos vies. Merci encore pour cette émission. On se retrouve bientôt. En attendant, vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast. On est désormais sur Apple Podcast également, Spotify et SoundCloud. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions. Ça nous fait toujours plaisir. Et je rappelle le handle de Instagram, c'est brisons-la-glace-pfn. On vous attend. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots.
Faire le scale-up.
Scale-up de Brisons-la-glace.
On est en grosse phase de scale-up.